Avant de commencer, je tiens à remercier tous les organisateurs parce que les digitalistes, nous avons peu d'occasion de nous retrouver ensemble, même si nous ne sommes pas très nombreux dans l'hispanisme. Et donc, cette journée va être l'occasion de remettre en avant la période sur laquelle nous travaillons. Donc, mon intervention s'intitule Goya et la guerre, de la gloire au désastre. Alors, la période de 1800-1815 se caractérise en Europe par d'importants bouleversements politiques, économiques et sociaux. Sans verser dans une analyse simpliste, mais il faut être un peu schématique, ni franco-centré, c'est sans doute que le continent entier vit encore l'onde de choc de la Révolution française. Et de fait, pendant cette période, c'est une Europe en guerre qui caractérise le début du 19e, et en même temps que les monarchies semblent vaciller, soumises aux ambitions de Napoléon et minées par les nouvelles idées politiques qui se sont mises à circuler et qui les remettent profondément en cause. Donc, s'interroger sur l'œuvre de Goya dans cette période, et particulièrement sur les représentations de la guerre, c'est mener de front une analyse historique, idéologique et artistique qui prennent aussi en compte la double activité de l'artiste. Une double activité, d'une part, peintre de cour reconnu, qui exécute des commandes officielles qui glorifient la puissance militaire et qui légitiment le pouvoir, et d'autre part, un artiste engagé dans la représentation de la guerre, toujours, pour mettre en exergue ce qu'elle a de plus horrible, en particulier donc dans la série des désastres. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de montrer que l'histoire et la guerre, d'une certaine façon, étaient présentes dans les portraits. En effet, les commandes, et bien avant 1808, dans les commandes et bien avant 1808, Goya a d'abord représenté le corps glorieux de la guerre, en peignant des militaires triomphants qui posent dans leurs plus belles uniformes et qui sont souvent bardés des décorations obtenues grâce à leur activité. Ce corpus d'œuvres appartient, à mon sens, tout autant à la thématique guerrière qu'à la peinture de coups. Le contraste que ce corpus d'œuvres forme avec l'ensemble des désastres permet de mieux éclairer la collection de gravures. Donc, la collection de gravures, qui sera l'objet de ma deuxième partie, propose non plus de représenter la guerre, mais d'en exposer les conséquences. C'était d'ailleurs le titre original, vous le savez, de la collection, hein, Fatales Consequences, hein, ça commençait ainsi. Et là, donc, évidemment, l'artiste va nous plonger dans l'horreur de la guerre et de ses conséquences. Alors, je m'intéresserai en particulier au mode de récit qu'il va adopter, puisqu'on peut vraiment parler de récit dans le cadre des gravures. Le simple fait qu'elle soit en série engage aussi vers un montage temporel. Et le mode de récit qu'il adopte est à rebours de la sublimation de la guerre, qui ne transforme pas ici un épisode glorieux, mais en une sorte de fragment dispersé et traumatique. Cette fragmentation que l'on a dans la narration de la guerre se traduit aussi par une remise en cause assez flagrante dans les désastres du corps académique, de la beauté rationnelle du néoclassicisme. Et le corps en tant que tel va subir des distorsions et va se dissoudre et s'éparpiller dans la collection, et nous verrons comment. Donc, images de guerre, quelques œuvres avant et autour des désastres. Alors, les conflits ont généré des représentations iconographiques très nombreuses. Est-ce que quelqu'un a le temps? Parce que vous n'avez pas dépassé beaucoup de monde. Alors, faut-il voir dans ces représentations de la guerre une fascination pour la violence ultime qu'elle représente avec la mise à mort de l'ennemi, ou pour les œuvres produite après coup, d'exorciser la mort et de la mettre à distance? Alors, peut-être les deux choses en même temps. Si la ligne de démarcation n'est pas toujours claire, les intentions politiques motivent souvent les représentations de la guerre, surtout pendant l'Ancien Régime, où presque tout l'art est un art de commande. Et l'iconographie est ainsi utilisée à des fins de propagande avant, pendant et après les conflits. Et on y représente le mal et la violence sous le visage de l'autre. Quand la guerre est finie, la raconter permet de renforcer les liens parmi les membres d'une même communauté, qui auraient, malgré leurs différences, et c'est le cas pour la guerre d'indépendance, combattu côte à côte contre un ennemi commun. Ces récits, qui sont construits a posteriori, essayent de donner un sens à la guerre, en transformant l'épisode traumatique en épisode glorieux, qui sera inscrit comme tel dans la mémoire nationale. Il ne faut pas oublier que, pour la guerre de l'indépendance, au moment où les Espagnols reprennent Madrid en 1808, après la bataille de Bailén, On s'affaire déjà à l'Académie de San Fernando pour faire des monuments aux victimes du soulèvement. Donc c'est une guerre qui fabriquera dans l'art sa propre célébration déjà pendant le conflit. La représentation du conflit fabrique ainsi des héros autour de mythes guerriers et les personnages de ce grand récit tendent à devenir emblématiques afin d'incarner la nation. En Espagne, la guerre d'indépendance, ou tout au moins sa narration, a servi cet objectif, pas seulement au début du 19e, mais pendant tout le 19e. Et chose assez curieuse, par contre, au niveau de la peinture, les épisodes de la guerre d'indépendance seront peints beaucoup plus dans la seconde partie du 19e que dans la première partie. Dans ce contexte, il convient donc d'examiner comment l'œuvre de Goya se situe par rapport au conflit et aux productions des autres artistes. Donc, le corps glorieux entre peinture d'histoire et peinture de cour. Alors, avant 1808, et en l'absence de commandes de ce type, Goya n'a, à proprement parler, jamais peint la guerre. Cependant, c'est un thème qui l'intéressait, puisque on sait, grâce à l'inventaire testamentaire, qu'il possédait chez lui des représentations de batailles sous forme de gravures, qui étaient des copies des œuvres de Lieberman, qui circulait en Europe, qui avait été gravé en fait par un graveur français. Cependant aussi, une partie des portraits que l'artiste réalise entre 1800 et 1815 entre tout à la fois dans le cadre de la peinture de cour et dans la représentation de la guerre. Et on peut même y trouver quelques précédents, puisque le premier portrait de militaire triomphant est le portrait du général Ricardos de 1793, qui est peint avec les insignes qu'il a obtenus au combat, dans la guerre qu'on appelle guerre des Pyrénées ou guerre de la Convention. Donc le portrait militaire est ainsi indirectement une image de guerre car il figure toujours l'activité sociale du modèle. Quand Goya arrive au sommet de sa réputation de portraitiste, cela coïncide en fait avec une période pour l'Europe très troublée où les batailles sont nombreuses. Et donc le portrait du général Ricardos allait être suivi d'autres portraits militaires. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais le plus marquant, vous le connaissez sans doute, c'est celui de Godoy, représenté en 1801 en chef des armées victorieuses. Ah, ce portrait que une collègue définit comme un concentré de testostérone, que l'expression est très bonne, était une commande de Charles IV. Les circonstances historiques sont intéressantes, le portrait parlant à lui tout seul. Commande de Charles IV pour commémorer la fameuse guerre qu'on a ensuite appelée ironiquement guerre des Oranges, un conflit hispano-portugais qui avait opposé les deux nations à la fin du printemps de 1809. Ce n'était pas réellement un grand épisode militaire, les combats ayant été limités, la paix signée rapidement à l'avantage des Espagnols, mais c'était une très bonne occasion de faire briller l'image du favori et indirectement donc celle de la monarchie. Et ce portrait de Godoy réunit tous les éléments du corps glorieux, tout en proposant, par la profondeur de charme et les accessoires, une narration indirecte de la guerre. On voit les drapeaux pris à l'ennemi, les fumerolles évoquant le combat au fond. C'est aussi, en même temps, un portrait de cour, où l'image de la guerre est d'abord utilisée pour exalter le modèle. On désigne dans ce portrait le grand homme qui est au premier plan, celui qui fait l'histoire, et dans quelles circonstances historiques il se trouve. Et donc ici, en ancrant Godoy dans un événement militaire précis, le portrait annonce le rôle que jouent et que joueront les grandes représentations iconographiques des conflits dans la propagande politique. Propagande politique que l'on sait ici à l'origine de la commande. Et ce type de portrait va continuer en fait dans la production de Goya pendant la guerre d'indépendance. Toujours sous l'influence d'événements précis et de commandes précises, Goya va peindre de fait des portraits qui renvoient à l'activité militaire. Ce n'est pas un hasard, alors que Charles IV n'a jamais été peint en portrait équestre, ou tout au moins le portrait de Charles IV à cheval ressemble à un paisible monsieur qui est en train de faire une promenade, mais qui n'a rien à voir, si vous le connaissez par exemple, avec le portrait qui est quasi contemporain de Napoléon par David, franchissant les Alpes sur un cheval cabré. Et donc, par contre, Goya peindra, commande de l'Académie en 1808, le portrait équestre de Ferdinand VII. Et ici, Ici, ce que voulait sans doute l'Académie, c'était asseoir la légitimité du nouveau roi en le représentant comme un chef de guerre. Ouais, ce n'est pas, d'habitude, le premier portrait que l'on peint d'un souverain, c'est rarement le portrait équestre. Et ici, en fait, c'est les circonstances, certainement, qui motivent cette représentation. Face à son très dangereux voisin Napoléon, qui n'allait d'ailleurs pas tarder à le subjuguer, comme il le disait lui-même, et au moment où les troupes françaises entouraient la capitale. Hein, le portrait, la commande, elle est de la fin du mois de mars de 1808. Goya ensuite terminera le portrait plus tard et le livrera au mois d'octobre, hein, puisqu'il y a l'intervalle où les Français occupent Bayonne, pas trop longtemps, la bataille de Bayonne, etc. Et il y aura ensuite d'autres portraits militaires, datés de façon incertaine, mais Goya représentera L.M.P. Sinado, hein, c'est un portrait qui a été retrouvé, qui est dans un musée au Japon actuellement, sans doute un portrait réalisé en 1810. En 1812, toujours dans les circonstances de la guerre, il va réaliser une commande pour l'Académie, une fois de plus, celle du duc de Wellington à cheval. Je ne vous le montre pas parce que les reproductions que l'on trouve ne sont pas très bonnes, mais elle est du même ordre. Wellington, vainqueur des Français à la bataille des Arapiles et donc libérateur de Madrid pendant l'été 1812. Un portrait du même type, et sans doute le meilleur à mon avis, sera réalisé par Goya en 1814 pour représenter le général Palafox, le défenseur de Saragosse. Donc sur la thématique guerrière, pardon, l'œuvre de Goya comporte une autre facette, sans doute la plus importante, celle qui a le plus marqué les esprits, à côté de ses tableaux de cour. Et donc je vous propose d'évoquer maintenant. Donc les désastres de la guerre comme récit. Alors Goya était, comme ses contemporains, témoin de la guerre. Il a vécu à Madrid les épidémies et la fin de 1812. Et on sait aussi que le projet de la collection des désastres est né au cours des premières années du conflit, puisque quelques gravures, la 20, la 22 et la 27, sont datées de 1810, la date apparaît sur les plaques, et l'ensemble a sans doute été produit tout au long du conflit. De son vivant, l'artiste ne semble pas avoir témoigné d'une intention que de publier cette collection, à moins que le cadeau de l'exemplaire relié qu'il avait fait à Sam Bermudez puisse être interprété comme une volonté en ce sens. Au moment où les libéraux occupaient le pouvoir, c'est l'hypothèse que Jacques Soubérou avance dans Goya Politico. Et son attitude artistique, c'est-à-dire le fait de ne pas finalement produire une œuvre qui n'était pas destinée à la publication, qu'il ne pensait pas destinée à la publication, est à rebours des pratiques de son temps, de ce point de vue-là. Et l'originalité de Goya peut se mesurer en comparant son œuvre à celle des confrères sur le même sujet et au même moment. En effet, deux collections de gravures ont été publiées un peu avant la fin du conflit. La première, c'est celle de Tomás López Enginados, qui a été mise à la vente le 11 juin 1813 et qui représentait le 2 mai. Quatre gravures dont le titre était « Día 2 de mayo de 1808 en Madrid ». Des gravures très populaires puisqu'il y a eu plusieurs tirages et un certain nombre des scènes qu'elles représentent furent reproduites sur des éventails, donc sur des accessoires si vous voulez. La deuxième collection est plus importante, il s'agit des 36 gravures du graveur Juan Galvez et du dessinateur Fernando Brambilla, qui, elles, furent publiées par tirage et souscription entre 1812 et 1813 à Cadix, et qui s'intitulaient « Las Minas de Saragossa ». Ces gravures étaient destinées à commémorer la résistance des Aragonais lors du premier siège de la ville. Ces deux collections de gravures, qui sont de très belles factures, ce sont des gravures d'artistes qui sont passés par les académies, décomposent narrativement souvent l'action, le lieu et les personnages, grâce en particulier à des légendes relativement longues. Alors on a toujours affaire à des légendes de plusieurs lignes qui décrivent les scènes. Elles s'inscrivent ainsi dans la perspective d'œuvres à caractère historiographique. Ce qui est aussi visible, c'est l'attention que ces gravures portent aux détails topographiques référentiels. Et très souvent, donc, ces gravures proposent des vues panoramiques de tous les événements notables qui sont soigneusement décrits et datés. Donc on peut le vérifier sur cette gravure qui est celle de la bataille de las Heras, prise dans las ruinas de Saragossa. Vous voyez la façon dont est construit le paysage avec cette grande profondeur de champ que nous avons, hein, les lignes de fuite, la perspective, la bataille qui est mise au milieu, mais comme vous le voyez, encadrée. Ce qu'on remarque aussi, c'est curieusement le fait que les ordres de troupes sont très nombreux, mais sont très souvent parfaitement alignés. On dirait un clonage, comme on fait dans les effets spéciaux actuellement, où avec trois soldats, on fait des bataillons entiers, et donc tous alignés et tous se ressemblent. Et finalement, ces récits historiques affirment la volonté de faire de la guerre une fabrique des héros, en la transformant en une sorte de récit épique que la postérité fera passer au rang de mythe national. Il n'est pas anodin que le prospectus imprimé par l'Académie de San Fernando pour Las Ruinas de Saragosse, dont la collection que vous avez une gravure sous les yeux, mettent le siège de Saragosse sur le même plan que celui de Sagonte ou de Numance. Exactement le contraire de ce que fit Goya avec les désastres de la guerre. Goya a en quelque sorte personnalisé la guerre. Il se doutait que sa vision ne correspondait pas à l'exaltation héroïque et patriotique du moment qui était attendue des artistes. Mais ce n'est pas seulement par les actions représentées que les désastres s'éloignent des gravures contemporaines, mais aussi par la technique de représentation qui est mise en œuvre. Donc là, vous avez une représentation du Día dos de Mayo en Madrid. Vous retrouvez la construction géométrique que j'ai évoquée. Là, elle est encore plus visible grâce à l'alignement des arbres. Donc, ce que va proposer Goya, c'est une narration, un cadrage des événements et une construction de l'espace et du temps tout à fait différente. Donc, ce que j'appelle, en fait, en quelque sorte, une destruction du chronotope. Les désastres se fondent sur une narrativisation qui est très élaborée. On n'a pas le temps d'y revenir en détail, mais les désastres racontent aussi chronologiquement la guerre, des événements, en passant par la fin de Madrid, en terminant par la restauration politique. Et de fait, à l'intérieur de la collection, on a souvent des mini-séries, les gravures fonctionnant entre elles, souvent se renvoyant les unes aux autres par les légendes ou par des scènes similaires. Alors, Goya utilise plusieurs procédés pour cela. D'abord, la répétition. Par exemple, donc la répétition, on a le cas des légendes, l'omismo. Donc, c'est pas la numéro 2, c'est la numéro 3, je me suis trompé. Corazón Ocineia, c'est la numéro 2, l'omismo, c'est la numéro 3. Tampoco, numéro 10, l'omismo en otras partes, numéro 23. Donc, comme on le voit, ce montage répétitif, et utilisé dans la première partie, principalement, des images de guerre. D'autres fois, on a un montage en écho ou en résonance, qui se fait par continuité. Par exemple, les planches 31 à 39 représentent une longue série de mises à mort qui vont de l'exécution du judiciaire en passant par la profanation des cadavres. Les textes font quelquefois le lien, mais pas toujours. C'est le cas des planches qui suggèrent alors la répétition de même récit, celui d'une exécution considérée à divers moments, avant, pendant, après. D'autres fois, Goya a recours à l'allégorie, principalement dans les caprices en fatigue. Donc le sujet, comme Jacques Soubérou va le traiter, je le laisse de côté, mais une allégorie pour représenter le retour au pouvoir de Ferdinand VII. Le spectateur... De fait, face aux gravures, se trouve souvent dans la position de fabriquer un récit par rapport à ce qu'il voit, une sorte de récit minimal. Si toutes les gravures peuvent être considérées avec l'ensemble, comme nous l'avons vu, comme un récit de la guerre, prises une à une, elles possèdent aussi une certaine autonomie narrative. Elles offrent majoritairement un moment de tension narrative, en particulier dans la première partie de la collection. Culturellement et psychologiquement, le lecteur-spectateur produit un récit à partir de l'instant représenté, qu'il développe dans son propre espace de lecture. Et de fait, le spectateur est souvent amené à se poser deux questions. Soit, que va-t-il se passer? Soit, comment en est-on arrivé là? Engageant un récit prospectif ou rétrospectif. Il est incité toujours à imaginer l'avant ou l'après en prenant appui sur l'instant qui est représenté. Dans le cas de cette gravure, Esto es peor, donc un cadavre au bras coupé emballé sur une souche d'arbre, la narration qu'engage le spectateur est rétrospective. Il doit imaginer comment on en est arrivé là. Et évidemment, dans les possibilités narratives qui lui sont offertes, les plus horribles sont possibles. se demander, par exemple, si le supplice a lieu sur un corps mort ou sur un corps vivant. Le choix ne portera pas toujours sur le pire, mais, comme on le sait, le pire, c'est aussi celui qui reste possible, hein, de choix narratif. Puisque le regard qui est convoqué, c'est celui ici du fantasme, de la représentation de la pulsion, et pas forcément celui de la raison, comme l'annonce la gravure numéro 2. Et donc on a, de ce point de vue, une narration de la guerre qui ne renvoie pas, comme dans les gravures que nous avons vues précédemment, à des événements ordonnés, classés, définis, situés dans le temps et dans l'espace, mais à une narration qui renvoie la guerre dans l'espace imaginaire, un espace imaginaire traumatique. Et au lieu de fixer un fait historique, Goya suggère un moment d'effroi ou de dégoût, celui où les pulsions mortifères se sont déchaînées, offrant le spectacle de l'inhumanité de la guerre et des hommes qui la font. Alors, il faut aussi dépasser le pouvoir des images, parce que la collection vous invite aussi à ça, puisque les légendes, souvent, viennent moduler cette situation du spectateur. On remarque, une fois écartées celles qui décrivent simplement ce que l'on voit ou explicitent une narration, que beaucoup de légendes font de fait appel au sentiment. De deux façons. La première façon, c'est en utilisant l'ironie. L'ironie permet de se défendre. L'écart de sens entre ce que l'on voit sur la gravure et la légende qui lui est donnée permet de voir la différence et de fonder une sorte d'éthique de l'incroyance, c'est-à-dire qu'on ne croit pas ce que l'on voit, l'objet ou l'acte devient ridicule sans que pour autant l'horreur du réel ne soit abolie. Mais donc elle permet, l'ironie, de mettre justement à distance l'horreur de ce que l'on voit. C'est une façon aussi de mettre à distance la souffrance. Ainsi, dans la gravure 33, qui représente des soldats en train d'émasculer un cadavre, on peut lire « que hay que hacer más ». La gravure 39 est du même ordre, « grande hazaña y con muertos ». D'autres fois, le sentiment qui est convoqué, c'est l'indignation ou la compassion. La gravure 38 a pour légende Barbaros, la 48 Cruel Lacrime, et celle-là, la numéro 50, Madre Infeliz. Là aussi, on engage le spectateur vers une vision qui permet de se détacher de ce qu'on voit sur l'image. Ce système de narration et de suggestion est complété par un dispositif qu'on pourrait appeler la destruction du chronotope, c'est-à-dire l'effacement du temps et de l'espace, qui va ainsi rapprocher les gravures du monde onirique, les éloignant définitivement de l'espace-temps de l'histoire. L'artiste prive ainsi les scènes de l'ancrage topographique référentiel, pour lequel il n'y a pratiquement pas de place. Et donc, de la même façon, les événements que l'on voit n'ont aucun référent temporel explicite ou précis. Par ailleurs, Goya, sur les fonds, personne n'a réussi à identifier aucun endroit précis, contrairement aux gravures que nous avons vues qui s'attachent à faire des représentations le plus précises possible des bâtiments ou de la promenade, comme on a vu sur la gravure. Par ailleurs, si on rapproche ces gravures, on pourrait dire, du langage photographique, en recherchant le cadrage et la profondeur de champ, on remarque trois choses. La quasi-totalité de la collection repose sur des plans moyens qui imposent au spectateur l'action principale. On est très loin de la vue panoramique des batailles qu'offre la Duna de Saragossa ou El Día dos de Mayo en Madrid. Du coup, l'action occupe presque totalement la surface de la gravure, l'action principale. Par ailleurs, les fonds monochromes, qui sont majoritaires, indiquent le reflux de la profondeur de champ. Il n'y a pratiquement rien à voir au-delà de la scène principale. On ne peut pas se perdre du regard dans ces représentations-là. Et d'autres fois, la ligne de fuite constitue une fausse échappatoire, puisque le regard rencontre dans la ligne de fuite une mise en abîme de la scène principale, comme c'est le cas des gravures 15 ou 36, où l'image sature la perspective. Le supplicié du premier plan est reproduit au second, au troisième plan, donc provoquant en fait ici une redondance de l'horreur. L'œil ne peut pas ici échapper à la scène, le regard ne peut pas errer sur la gravure. Les éléments spatiaux semblent remplir une seule fonction, hein, une fonction purement narrative, et n'engagent pas de référence dénotative au réel historique. Leur absence ou leur présence vient renforcer la primauté de la scène représentée, qui se rapproche ainsi de la scène traumatique telle que la définit la psychanalyse. En nous plaçant au plus près de l'action, en supprimant surtout tout effet de perspective ou d'ancrage spatial référentiel, Goya fait percevoir le massacre de masse, l'anéantissement par la mort et la maladie, par le biais de l'intimité de l'être et du corps, comme nous allons le voir dans les derniers points de notre exposé. Là où les autres graveurs ou peintres nous montrent des corps d'armée qui s'affrontent collectivement, Goya est au niveau du sujet individuel, qui est souvent pris dans le corps à corps avec son ennemi. Et ce qu'on voit le plus dans ces gravures, ce sont les corps. Alors d'abord, il faut insister sur la mise en forme horizontale qui accorde une place prépondérante au groupe plutôt qu'à l'individu, à l'indifférenciation plutôt qu'à la particularité, encore qu'elle soit identique aux autres œuvres de l'époque. Cependant, la représentation que proposent les gravures dissout les limites du personnage de la scène iconographique classique, car parfois on ne sait plus qui fait quoi dans ces gravures et à qui. Le trait et la disposition tendent à transformer le corps à corps en un grand corps général, d'où n'émerge plus l'individu et où il ne reste que la fureur de l'action. Cette façon de représenter déshumanise l'action de guerre. Les corps deviennent une image qui perd son unité et qui se recompose dans une sorte de corporealité hybride et multiforme. Dans la gravure numéro 5, par exemple, on a du mal à distinguer les 11 protagonistes de l'action. Dans la gravure numéro 10, ce sont des fragments qui émergent, des pieds, des têtes, des fesses, des corps tordus, où il est possible de dire qui est qui et combien de corps participent à la mêlée. Il en va de même quand il s'agit de mort. L'amoncellement de cadavres à cause de la guerre ou de la maladie fait perdre de vue l'unité du corps individuel. Combien de cadavres dans cette gravure? 4, 5, 6 ou plus? Certes, c'est le retour à la poussière, hein, la gravure dite pareil sur Weiss d'acide, mais c'est aussi l'inhumanité de ce type de mort. C'est la mort de masse. Les lits de la mort, de la gravure 62, reproduisent ce même anonymat, la Scamas de la Muerte. Ils renvoient une angoissante représentation d'une mort qui fauche littéralement par groupes entiers. Combien de combattants morts ou blessés, genre je sors des gravures 20 à 25, hein, qui représentent les blessés et les morts, on ne le sait pas, car le trait du graveur empêche un comptage exact. Valérian Rossal avait souligné que c'était là une des caractéristiques de l'œuvre de Goya, en indiquant que déjà dès les cartons, dans la façon dont il représente les groupes, ce qui le différencie de ses contemporains, c'est que parfois on ne peut pas compter le nombre de participants au groupe. On comprend alors mieux notre anachronisme qui a été porté sur la série des désastres. Pour un Européen, comment ne pas considérer Goya comme un passeur visionnaire de la guerre classique à la guerre moderne? Goya fait apparaître l'horrible modernité du conflit. La mort de masse sur les champs de bataille, où le canon et la charge à la baïonnette font des milliers de morts, le massacre des civils et les épidémies. À partir de la gravure 31, Goya choisit un mode de représentation opposé. Les corps s'individualisent, mais non pas pour humaniser la guerre, mais pour suggérer une horreur encore pire. D'abord, il y a les exécutions, qui soulignent la solitude face à la mort, mais aussi la cruauté des bourreaux. Et le sommet de l'horreur est atteint à la profanation par mutilation ou par l'acharnement sur les corps morts. À les gravures 28, 33, 37, 39, que nous avons déjà vues, et qui sont sans doute les plus connues, car les plus horribles de la collection. Et ces gravures-là représentent la violation d'un tabou suprême, qui signifie que l'homme perd son humanité car il perd ce qui le caractérise, son inscription dans le symbolique et le sacré du rite funéraire qui suppose le respect du mort. En dernier ressort, on pourrait y voir aussi l'effrayante image de la fin des temps, la rencontre qui annonce l'apocalypse, celle où les vivants par les morts. À ce titre, les corps décharnés de la seconde partie sont le pendant des corps mutilés et violés de la guerre. Le corps est donc pour Goya une problématique centrale comme il l'était pour l'art de l'époque. Le corps néoclassique était toujours parfait d'illimité. Il servait à exprimer le beau et c'était l'exercice de dessin par excellence. L'Aragonais va cependant l'utiliser à rebours. Déjà dans les caprices, il avait eu recours à la monstruosité, à la difformité, à la laideur et à la nudité pour pour suggérer incarner les pulsions sexuelles et les dérèglements sociaux. Dans les désastres, c'est un autre cheminement, mais qui possède le même élément de référence. Le corps néoclassique qui incarne la beauté parfaite, la rationalité, et à partir duquel on peut mesurer l'écart de la représentation proposée. Dans les corps mutilés des désastres, beaucoup de critiques ont voulu reconnaître l'Hercule de Farnèse, modèle italien classique croqué dans le premier album de dessin du jeune Goya. Vous l'avez ici. Je pense que ce n'est pas exactement une reconnaissance qu'il faut opérer de cet Hercule de Farnèse, mais plutôt constater un écart. 40 ans plus tard, le vieux graveur utilise le dessin académique auquel il a été formé pour le dépasser largement. Et il va briser deux règles dans le désastre. En gravant une abondance de corps nus pour exprimer la mort, il utilise la nudité à rebours pour exprimer l'horreur et non la beauté. En gravant des corps mutilés, torturés, violés et parfois indifférenciés, il met à l'épreuve en quelque sorte le corps néoclassique, le dissolvant en brisant les lignes et les contours qui en font son unité. Le procédé lui sert à montrer le dérèglement symbolique de la guerre, le conflit dissout l'unité rationnelle du corps tel que pensé par l'art de son temps et le transforme en monstration de chair, voire en déchet. L'artiste nous fait passer de la beauté parfaite, rationnelle, incarnée et pratiquement sacralisée par et dans le corps académique, au réel de la violence, saccageant la beauté. L'inhumanité est suggérée graphiquement par la dissolution des lignes et des frontières entre les corps. Pour conclure, les désastres scellent ainsi la disparition du corps glorieux, du corps d'armée et du corps du soldat triomphant. Cela parce que le corps glorieux naît d'une chose cruelle, la guerre. Et c'est là que s'exprime la modernité de Goya. On retrouve un Goya engagé dans la représentation, un Goya politique, comme l'a décrit Jacques Soubérou. Du point de vue de sa réception, les corps décharnés qui hantent les gravures nous semblent aussi terriblement familiers tant ils se superposent aux images de la Seconde Guerre mondiale, aux bombardements, aux camps d'extermination que notre mémoire a fixé en noir et blanc. Le parallèle anachronique doit être fait. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite Tsvetan Todorov à partir du témoignage de Zoran Muzik, car il permet de rendre hommage à la modernité de l'artiste, à un message du passé qui garde son actualité. Il permet aussi de comprendre pourquoi, presque intuitivement, car c'est là notre culture visuelle, Goya nous est si familier, exprimant aussi des valeurs qui semblent communes entre son temps et le nôtre. Mais il faut aussi faire justice à son époque, en surmontant cet anachronisme, en le reconnaissant et en s'en servant, comme le propose le critique d'art Daniel Arras, pour faire parler l'œuvre d'art dans sa propre époque, car son universalité n'est qu'un effet de lecture. Considérer la dimension idéologique et esthétique des désastres, c'est retrouver le Goya politique décrit par Jacques Soubérou, porteur de l'éthique des Lumières, avec quelque chose en plus. Raison, justice, liberté et vérité, certes, mais mise à l'épreuve des passions humaines. Je vous remercie.